de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Les amateurs de vaccins faibles, Duterte menace d'emprisonner les citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner. Plus de 2,7 milliards de doses de vaccins Covid ont été injectées dans le monde. La République tchèque soutient le développement durable de l'Indonésie. Sur le polyéthylène terephthalate, l'Indonésie prête à concourir en Malaisie. Le Parlement indonésien demande au Parlement européen de ne pas discriminer l'huile de palme indonésienne. Le vice-président demande un certificat halal international pour les produits indonésiens. Mon cher auditeur, voici les nouvelles incomplètes. Les amateurs de vaccins faibles, Duterte menace d'emprisonner les citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a menacé d'emprisonner les citoyens qui refusent de se faire injecter un vaccin contre le coronavirus COVID-19. Cette menace a été affirmée lorsque le nombre d'enthousiastes du vaccin COVID-19 a tendance à être faible aux Philippines. Signalé par Reuters mardi 20 juin 2021, les Philippines ont enregistré à ce jour plus de 1,3 million de cas de coronavirus, avec plus de 23 000 décès sur son territoire. L'affirmation de Duterte contredit les déclarations des responsables de la santé philippins qui disent bien que les gens soient invités à recevoir le vaccin coronavirus, il est volontaire. Après avoir été durement touchée par Corona, l'Italie n'aura plus besoin de masques à partir du 28 juin. À partir du 28 juin, l'utilisation du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur de la salle en Italie. L'un des pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus, citait l'agence de presse AFP mardi 22 juin 2021, le ministre de la Santé Roberto Speranza a déclaré sur son réseau social que la levée de l'exigence de masque appliquerait dans les zones étiquetées blanches. Selon le système de classification italien, pour la rapidité avec laquelle le coronavirus se propage. Il couvre toute l'Italie à l'exception de la petite région de la vallée d'Aoste à l'extrême nord-ouest. Plus de 2,7 milliards de doses de vaccins COVID ont été injectées dans le monde. Plus de 2,7 milliards de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées dans le monde. Il s'agit de données administratives collectées dans le monde entier, comme rapporté par Our World in Data, mardi, cité par CNNIndonesia.com. L'équipe de recherche basée à Oxford, en Angleterre, a noté qu'au moins 21,8% de la population mondiale avait reçu une dose du vaccin COVID-19 à ce jour. Cependant, seulement 0,9% dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. La Chine est à la pointe de l'administration de doses de vaccins avec plus de 1,03 milliard, suivi des États-Unis avec 317,97 millions de doses. Pour l'Indonésie, l'équipe de recherche a noté que le nombre de vaccinations qui avaient été effectuées était de 35,28 millions, supérieurs à celui de la Russie qui venait d'injecter 34,9 millions. Cependant, selon les données du groupe de travail COVID-19 publié sur le site web covid19.go.id, lundi, le gouvernement indonésien a effectué des vaccinations cumulatives pour 35,59 millions de personnes. La République tchèque soutient le développement durable de l'Indonésie. Le ministre indonésien de coordination des affaires économiques Erlangga a déclaré que la République tchèque apporte son soutien à l'Indonésie en vue de la reprise économique mondiale grâce au développement durable. Ce soutien a été exprimé par la République tchèque lorsque le ministre coordinateur d'Erlangga a reçu la visite du ministre tchèque de l'Environnement Richard Brabec, accompagné de l'ambassadeur de la République tchèque en Indonésie, Jaroslav Dolecek, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Martina Tauberova, et le président de la Fédération tchèque de l'Industrie, Jaroslav Hanak. Erlangga Hartanto, dans sa déclaration à Jakarta, a déclaré mardi que son parti avait invité les hommes d'affaires tchèques à devenir des partenaires dans le développement des infrastructures et la numérisation ainsi qu'à investir activement en Indonésie. Conformément aux étapes de transformation économique et de réforme structurelle que le gouvernement indonésien est actuellement en train de mettre en œuvre à travers la loi sur la création d'emplois, selon lui, le gouvernement indonésien continuera à faire des efforts pour améliorer la réglementation afin de créer un meilleur climat d'investissement, accompagné de réformes dans les domaines de l'environnement et du travail basés sur les dispositions et normes internationales. Le polyéthylène terephthalate, l'Indonésie prête à concourir en Malaisie. Le ministre indonésien du Commerce, Mohamed Lutfi, s'est félicité de la clôture de l'enquête anti-dumping sur les importations de produits en polyéthylène terephthalate, PET, en provenance d'Indonésie par le gouvernement malaisien. Mohamed Lutfi, dans une déclaration officielle à Jakarta mardi, a souligné que cette opportunité pour les exportations indonésiennes de PET est ouverte et prête à concurrencer sur le marché malais. Il espère que cette opportunité sera utilisée par les producteurs et exportateurs indonésiens pour augmenter les exportations et maintenir l'accès au marché des pays partenaires commerciaux. Le document indiquait que l'importation de produits en PET, y compris en provenance d'Indonésie, n'avait pas causé de pertes importantes à la branche de production nationale malaisienne qui fabriquait des produits similaires. Outre l'Indonésie, le gouvernement malaisien a également mis fin aux enquêtes anti-dumping sur les produits MPET en provenance de Chine, de Corée et du Vietnam. Le Parlement indonésien demande au Parlement européen de ne pas discriminer l'huile de palme indonésienne. Le président de l'Agence de coopération interparlementaire, Chambre des représentants indonésiennes, Fadlizon, a demandé à l'Union européenne et au Parlement européen de ne pas discriminer l'huile de palme d'Indonésie. La discrimination contre les produits agricoles n'aidera pas les pays en développement, mais aggravera les conditions de vie des agriculteurs qui dépendent de ces produits. Fadlizon, lors du dialogue en ligne entre le Parlement européen et le Parlement des pays de l'ASEAN à IPA, mardi 22 juin, a déclaré qu'à l'aube de la 44e année des relations diplomatiques entre l'Union européenne et l'ASEAN, il a invité le Parlement européen à être plus actif dans le dialogue sur des questions qui restent des barrières commerciales, comme la question de l'huile de palme. Fadlizon estime que jusqu'à présent, l'huile de palme a souvent reçu une évaluation injuste par rapport aux autres huiles végétales. Il a souligné l'importance de l'avenir du commerce entre l'Union européenne et l'ASEAN, notamment en ce qui concerne l'approche bilatérale et la possibilité de réactiver les négociations commerciales régionales entre l'Union européenne et l'ASEAN qui avait été reporté pour donner l'occasion de négociations bilatérales. Le vice-président demande un certificat à l'international pour les produits indonésiens. Le vice-président Maruf Amin a demandé qu'un certificat à du standard international soit immédiatement approuvé, afin que les produits à fabriqués en Indonésie soient acceptés sur le marché mondial. Le vice-président a exhorté l'agence organisatrice d'assurance des produits halal et l'Institut pour l'évaluation des aliments, des médicaments et des cosmétiques du Conseil indonésien des oulémas à se coordonner immédiatement avec le gouvernement pour obtenir la certification. La demande a été transmise virtuellement par le vice-président Maruf Amin dans son discours au festival Shawwal de LPPOM MUI 1442 Hijriah depuis Jakarta mardi. Le vice-président a souligné qu'avec l'existence d'un certificat halal du standard international, les pays de destination des exportations d'Indonésie pourraient recevoir des produits fabriqués dans le pays. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Nouvelles initiatives pour le règlement des conflits en Birmanie ». Vous êtes avec moi, Audrey. Sur Gilles-Tard, la résistance croissante des milices armées contre la junte militaire pourrait déclencher une guerre civile en Birmanie. Mardi 20 juin, un conflit armé entre militaires et miliciens a éclaté dans la ville de Mandalay. Les tentatives de raid contre un bâtiment scolaire à l'aide de véhicules blindés se sont heurtées à la résistance de la milice. Un certain nombre de militaires ont été blessés, tandis que du côté des miliciens, 4 personnes ont été tuées. La vidéo de l'incident a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Il est dit que des centaines de manifestants anti-coup d'État de divers coins de petites villes et villages avaient assisté à des entraînements militaires, se préparant contre les troupes de la junte militaire. L'aggravation des conditions indique que le consensus des 5 dirigeants de l'ASEAN lors de leur rencontre à Jakarta en avril dernier n'a pas eu d'impact positif sur la résolution des conditions en Birmanie, membre de l'ASEAN. Comme l'ont déclaré un certain nombre d'observateurs, le chef de la junte de la Birmanie considère que le consensus de Jakarta n'est pas un accord contraignant qui doit être mis en œuvre. C'est le scepticisme des opposants à la junte militaire ainsi que la non-application du consensus qui ont rendu la situation plus incertaine et des milices locales ont surgi. L'attitude timide de certains États membres de l'ASEAN dans la résolution de la crise politique et de la violence militaire en Birmanie peut être citée comme l'une des causes de l'escalade de la violence dans ce pays. Comme on le sait, 2 pays membres de l'ASEAN, la Thaïlande et Singapour, ont montré une attitude amicale envers le gouvernement militaire. Singapour aurait même investi dans ces pays en proie au conflit. Les différentes attitudes des pays membres de l'ASEAN ont également été montrées lorsque les Nations Unies ont rédigé une résolution pour arrêter les livraisons d'armes en Birmanie. Au moment du vote sur la résolution de l'ONU visant à imposer un embargo sur les armes en Birmanie, la Thaïlande, le Brunei Darussalam, le Cambodge et le Laos se sont tous abstenus. L'Indonésie est l'un des partisans de la résolution de l'ONU avec 198 autres pays, tandis que 36 pays se sont abstenus, dont la Chine. Dans quelle mesure l'impact de la résolution de l'ONU sera est encore inconnu. Ce qui est certain, les intérêts politiques et économiques de divers pays, y compris au sein de l'ASEAN, peuvent être une indication de la complexité de la résolution des problèmes en Birmanie. La position de la Chine comme l'un des grands pays qui soutient la junte militaire, à la fois tangible et intangible, est un indicateur de la difficulté de résoudre les problèmes. L'attitude de la Chine est différente de celle des États-Unis et de l'Union européenne qui ont ouvertement cessé de coopérer avec les hauts responsables militaires de la Birmanie. Si la résolution de l'ONU n'a pas d'impact, il est très probable que le conflit s'intensifie. Les craintes d'une guerre civile en Birmanie sont de plus en plus justifiées. Face à cette incertitude, les pays membres de l'ASEAN qui ont un engagement clair doivent être prêts à se manifester, au moins devenir les initiateurs de la résolution du problème. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 juin 2003, la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. La Journée des Nations Unies pour la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution numéro 57 de 177.La résolution appelle tous les États membres de l'ONU à augmenter la sensibilisation du gouvernement et de toutes les parties engagées dans le secteur public sur l'importance d'améliorer les services publics dans le cadre des efforts visant à améliorer le bien-être public. L'autre information est sur la journée mondiale des veuves, le 23 juin. La commémoration de la journée des veuves a été initiée par la Fondation Lumba, une organisation de l'ANT, pour augmenter la sensibilisation aux violations des droits humains subies par les veuves dans de nombreux pays après le décès de leur conjoint. Le 23 juin a été choisi sur la base de la dateà laquelle Srimati Puspawati Lumba, mère du fondateur de l'organisation, Ruth Lumba, est décédée le 23 juin 1954. En 2010, ils ont soumis cette journée de célébration aux Nations Unies. Le 21 décembre 2010, les Nations Unies ont officiellement adopté le 23 juin comme journée internationale des veuves.Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 juin 2016. La Grande-Bretagne a organisé un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Le 23 juin 2016, le peuple britannique a voté par référendum son retrait de l'Union européenne. En conséquence, 51,9% ont soutenu une sortie britannique au Brexit et 48,1% s'y sont opposés.Le référendum marque la première fois qu'un pays décide de quitter l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Sa cinta itu datangKu rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et le Canada lancent les négociations commerciales ISA SEPA. Le ministre de Commerce Mohamed Lutfi et la ministre canadienne de la Petite Entreprise, de la Promotion des Exportations et du Commerce International, Mary Energy, ont officiellement lancé le début des négociations de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada, ISA-SEPA. Le lancement de cette négociation s'est effectué virtuellement lundi 21 juin. Le ministre du Commerce a déclaré que le lancement de l'ISA SEPA est une étape importante dans les relations de 69 ans entre l'Indonésie et le Canada. Cet accord devrait soutenir la croissance économique, le commerce et l'investissement, y compris la création d'emplois pour la population des deux pays. En outre, selon le ministre du Commerce, cet effort est réalisé comme l'une des stratégies visant à renforcer la coopération étrangère entre l'Indonésie et le Canada en tant que partenaire égaux important et stratégique, surtout au milieu d'un changement géopolitique mondial très dynamique. Le ministre de Commerce, Mohamed Loutou, a expliqué que cette étape faisait suite à la directive du président Joko Widodo pour l'Indonésie d'établir activement des négociations commerciales internationales avec des partenaires commerciaux potentiels afin d'ouvrir de nouvelles opportunités de marché, en particulier pour créer des opportunités d'exportation au milieu de la pandémie. Il a ajouté que l'accord entre l'Indonésie et le Canada est un effort stratégique pour ouvrir des opportunités pour une plus grande pénétration des produits indonésiens en Amérique du Nord. Comme tenu, l'Indonésie vient d'avoir actuellement un seul accord commercial dans le continent américain, à savoir avec le Chili en Amérique du Sud. Pendant ce temps, le directeur général des négociations commerciales internationales du ministère du Commerce, Jatmiko Bagus Wicaksono, a révélé que les deux ministres ont donné des instructions aux deux équipes de négociation pour qu'elles préparent immédiatement les questions techniques avant d'entamer les négociations. Le premier cycle de négociations devrait avoir lieu avant la fin 2021. Tout au long du premier trimestre 2021, les deux pays ont mené une série de discussions en ligne intensive pour discuter dans l'éventail des problèmes potentiels inclus dans l'accord. Les questions à discuter comprennent l'accès au marché pour le commerce des marchandises, le commerce des services, l'investissement et la coopération économique. Jatmiko a déclaré que le gouvernement indonésien espère qu'avec l'ISA SEPA, l'Indonésie pourra être plus compétitive avec les pays voisins de la région de l'Asie du Sud-Est qui ont déjà conclu des accords commerciaux avec le Canada ou qui ont rejoint l'accord commercial de partenariat transpacifique. Par ailleurs, cité sur le site web du gouvernement canadien, canada.ca, la ministre canadienne de la petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international, Mary Energy, a déclaré que les relations commerciales entre le Canada et l'Indonésie ont un potentiel de croissance important. Selon elle, un accord global pourrait offrir aux Canadiens un meilleur accès aux chaînes d'approvisionnement de l'Asie du Sud-Est, offrir des opportunités pour les biens et services canadiens à la classe mondiale sur ce marché en croissance rapide et encourager la création d'emplois à long terme et une croissance inclusive durable pour les générations futures. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya
dan tak tahu akibatnya.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous continuons notre émission avec le programme Le magazine culturel. Pour ce soir, nous vous invitons à visiter le village traditionnel Sade. Sade est l'un des hameaux du village de Rembitan, Pujut, Lombok Central. Le village est à seulement 13 km ou 25 minutes en voiture de l'aéroport. Ce village est connu comme un village qui maintient les coutumes de la tribu Sasak. La tribu Sasak Sade est bien connue des touristes qui viennent à Lombok. L'Office du tourisme local a fait de Sade comme village touristique en raison du caractère unique du village de Sade et de la tribu Sasak qui y vit. Même s'il est situé juste à côté d'une route asphaltée lisse, les habitants du village de Sade à Rembitan, Lombok Central, tiennent toujours à maintenir l'authenticité du village. Le village Sade affiche toujours l'atmosphère du hameau d'origine de Lombok. On peut le voir depuis la construction de la maison qui semble très traditionnelle. Le toit est fait de fibres, la frame de toit utilise du bambou sans clous, le mur fait de bambou tressé. La tribu Sasak Sade a nommé le bâtiment Bali. Il y a 8 balais à savoir balai tani, jajar sekenam, bonter, belek, berugak, tajuk et bencinga. Balai-balai se distinguent par leur fonction. Dans ce village, il y a 150 maisons avec 150 chefs de famille, avec un total de 700 personnes. Ce village est habité depuis 15 générations. Dans le passé, une grande partie de la population adhérait à l'islam Wektu Telu, ou seulement 3 prières par jour. Mais maintenant, de nombreux habitants de Sade ont quitté Wektu Telu et adhéré complètement à l'islam. Les tissus tissés et les accessoires à partir de fils tels que les bracelets et les colliers sont le savoir-faire des femmes du village de Sade. Les femmes du village de Sade doivent pouvoir tisser et obligent de le faire. Elles peuvent même se marier quand elles peuvent déjà tisser. Le village de Sade a une tradition de mariage inhabituel, à savoir le mariage d'enlèvement où un homme kidnappe la femme qu'il aime et l'emmène. Après cela, l'homme a demandé la bénédiction de la famille de la femme. Cette tradition se pratique encore jusqu'à aujourd'hui. Les propositions, les fiancés sont considérées comme une violation de coutume. Au milieu de la modernité, la tribu Sasak Sade conserve encore ses coutumes et ses traditions. C'est normal, les touristes affluent pour vouloir en savoir plus sur ce village qui existe il y a 1500 ans. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Chers auditeurs,
c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger des Radios République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. En français, laver des mains au savon. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. En français, laver des mains au savon. Cette conversation se déroule entre le pharmacien et Kevin. Le pharmacien a offert à Kevin un désinfectant pour les mains. Kevin a dit au pharmacien qu'il se lavait les mains au savon plus souvent qu'il n'utilisait de désinfectant pour les mains. Bonne écoute.
Mau beli penyanitasi tangan juga?
Tidak, masih ada karena saya sering mencuci tangan dengan sabun.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. En français, laver les mains au savon. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Penyanitasi tangan. Penyanitasi tangan. En français, désinfectant pour les mains. Mencuci tangan. Mencuci tangan. En français, lever des mains. Dengan, dengan, au. Ou avec tu. Sabun, sabun, savon. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. En français, je me lave souvent les mains au savon. Chers amis, au cours d'une conversation, vous avez entendu la phrase « Saya sering mencuci tangan dengan sabun ».« Saya sering mencuci tangan dengan sabun ». En français, « Je me lave souvent les mains au savon ». Dans l'énoncé, il y a une conjonction « dengan »,« dengan », avec « du » ou « au » en ce cas-là. Dans le cadre de la conversation, la conjonction « dengan »,« dengan », en français « au », sert à montrer des informations sur la forme des outils utilisés. Par exemple, saya mencuci tangan dengan sabun. Saya mencuci tangan dengan sabun. En français, je me lave les mains au savon. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de la conjonction au. Kevin, saya sering mencuci tangan dengan sabun. Saya sering mencuci tangan dengan sabun. En français, je me lave fréquemment les mains au savon. Pharmacien, bagus, bagus, bien. Pharmacien, bagi dua obat dengan pisau. Bagi dua obat dengan pisau. En français, diviser deux médicaments avec un couteau. Kevin, baik, baik. Très bien. Chers amis, depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé, de nombreuses personnes ont réalisé l'importance de maintenir la santé et l'hygiène personnelle. Une façon de maintenir l'hygiène personnelle est de toujours avoir du désinfectant pour les mains avec vous lorsque vous allez n'importe où, afin qu'il soit facile de se nettoyer les mains après avoir touché des objets ou les avoir touchés. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Mau beli penyanitasi tangan juga?
Tidak, masih ada karena saya sering mencuci tangan dengan sabun.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Banjar, Kalimantan du Sud, intitulée Uma Aba. Chers amis, la chanson Uma Aba a été composée par Anang Ardiansyah, un chanteur et auteur-compositeur, en particulier des chansons Banjar. Comme le titre signifie « père et mère », la chanson Uma Aba raconte la lutte des parents pour leurs enfants. Même s'il faisait très chaud et que les côtes jusqu'à la taille semblaient ne plus être à leur place, la mère continuait à chercher de la nourriture. Pendant ce temps, son père est également allé travailler malgré les fortes pluies et le tonnerre. Cette chanson raconte aussi l'amour des enfants à leurs parents. Il est prêt à remplacer la fatigue et la sueur de ses parents. L'enfant a également prié Dieu de pardonner les péchés de ses parents qui l'aimaient depuis l'enfance. Mon cher auditeur, voici Raja va chanter une chanson intitulée Uma Aba. Bonne écoute.
Rasa rakai tulang hingga sampai kepinggan mangilik nanang galu caramin matanya Uma batulah mencari akan rajakinya Sambung hujan lebat arus deras wan galumbangnya awak basah kedinginan di tengah sungai abah maluntak baluma tentu pakulinya abah batulah mencari akan rezekinya Uma mun bulih sakit umaku kan tiakan lawan segala pahalaku Oh
tercium batis umanang menyayangi. Ku cium tangan abalan melindungi. Ampuni ya kan dosa umawan abaku. Ampuni ya kan dosa umawan abaku.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.